Le Grand Dialogue.
Sigi Kafomba.
Et Dawani Wamakara.
Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.
Chienne Berry.
Halo de Mouni.
Chienne Berry. Sigi Kafomba. Le Grand Dialogue.
Vous suivez les programmes de Studio Tamani sur 75 radios à travers le pays et 3 télévisions. Bienvenue à ce Grand Dialogue qui s'intéresse aujourd'hui à la mise en concession de l'aéroport international Modibo Keïta du Mali. La mesure est-elle justifiée? C'est la principale question. Et nos invités sont Moussa Sidibé, fiscaliste conseil, Dr Étienne Fakaba Sissoko, économiste chercheur au CRAPES, Mamadou Traoré du Forum des organisations de la société civile et professeur Mamoutou Soumaré du Centre de réflexion et d'action contre la corruption qui nous rejoindra au cours du débat. Je suis Mohamedou Touré, bienvenue à tous.
Le Grand Dialogue.
L'annonce de la mise en concession de l'aéroport international Modibo Keïta suscite des débats au sein de l'opinion publique malienne. Docteur Étienne Fakaba Sissoko, la mise en concession de l'aéroport du Mali, de quoi s'agit-il réellement?
En réalité, il s'agit de la mise du transfert de la gestion de l'aéroport à un tiers dans le cadre d'un partenariat public-privé. L'État garde la responsabilité, l'État garde toute son autorité sur le bien. L'État garde également l'appartenance du bien, mais c'est simplement la gestion qui est confiée à un tiers, moyennant des conditions, bien entendu, à mettre en place. Donc, contrairement à la fausse idée répandue, ce n'est ni une privatisation, ni encore moins une autre formule dont on a l'habitude de voir. C'est tout simplement une gestion, on transfère tout simplement la gestion de l'aéroport à une autre société.
Monsieur Mamadou Traoré, aujourd'hui, quel est le point de vue de la société civile, du Forum des organisations de la société civile malienne sur cette mise en concession de l'aéroport du Mali?
Bon, disons qu'il faut répréciser, hein, encore une fois, je suis là au nom du Forum des organisations de la société civile, qui est juste une organisation parmi tant d'autres. Alors donc, je ne prétends pas, et nous ne prétendons pas, représenter toute la société civile malienne.
Vous représentez une partie de la société civile.
Nous représentons, je représente le Forum des organisations de la société civile. De ce point de vue, tout ce qui va contre les intérêts de la République du Mali, on est contre. Maintenant, s'il se trouve qu'il y a des problèmes qui justifient ce transfert de gestion, bon, on est dans le débat, on va comprendre de quoi il s'agit. Et aussi, chemin faisant, nous allons continuer nos recherches pour comprendre davantage ce qu'en est réellement. Encore une fois, tout ce qui va contre les intérêts de la République du Mali, nous, on est contre.
À ce stade, est-ce que vous pensez que cette mesure va à l'encontre de l'intérêt?
Bon, je ne pourrais pas répondre à cela tout de suite, parce que je n'ai pas toutes les données. Sur la gestion, comment ça va se passer, quelles sont les conditions ou quelles sont les conditionnalités, surtout quand on sait que le Mali est un pays fragile aujourd'hui qui est dans une situation telle que les choses sont très très difficiles. Voilà, pour le moment, je ne peux pas apprécier vraiment ce qui est en train de se passer, mais nous avons notre point de vue sur le Mali en termes d'intérêt. Les intérêts de la République du Mali nous sont sacrés. Voilà.
Et on va y revenir. On va donc poser la question à Moussa Sidibé. Est-ce que vous pensez que cette mise en concession de l'aéroport du Mali va à l'encontre des intérêts du Mali?
Il faut déjà préciser que, contrairement à Etienne, moi je dirais que c'est une forme de privatisation des aéroports du Mali. Ce n'est pas la seule forme de privatisation. En fait, la concession est une des formes de privatisation des aéroports. Nous avons constaté sur les 20-25 dernières années une tendance à cette privatisation. Depuis le début des années 90 jusqu'à maintenant, la tendance est de manière de plus en plus importante à constater sur ces formes de privatisation. Et dire que ça va à l'encontre ou pas des intérêts du Mali, tout dépendra des contrats, du contrat qui va être négocié avec l'exploitant privé qui va prendre l'exploitation des aéroports du Mali. J'explique. En fait, la concession, c'est octroyer l'exploitation des aéroports à un exploitant privé sur une durée déterminée qui va souvent entre 30 et 40 années et qui moyennant le paiement à l'État d'une redevance annuelle. Sachant bien que cet octroi d'exploitation à un opérateur privé ne transfère pas la propriété des infrastructures. L'objet, c'est de bénéficier de l'expertise de gestion opérationnelle et économique d'infrastructures aéroportuaires pour optimiser au maximum, parce que tout le monde sait qu'aujourd'hui, nos États font face à une raréfaction des ressources financières. Ils ne sont pas aussi dotés à pouvoir faire de gros investissements sur les infrastructures aéroportuaires. C'est une forme de faire recours à un exploitant privé qui a de l'expertise sur la gestion des aéroports, et l'État, dans le cadre de ce contrat, a une redevance annuelle.
Mais si la propriété reste malienne, comment cela peut être une privatisation?
Ben, c'est une privatisation à partir du moment où l'exploitation et le développement des infrastructures est transféré pendant toute la période de la concession. Ça veut dire que l'exploitation des infrastructures aéroportuaires va être transférée à un opérateur privé qui va procéder à des recrutements et au management de tout l'aéroport pendant toute cette période. Et forcément, il va falloir que ça va jouer sur le management des équipes des aéroports du Mali. Ça va jouer sur la gestion des infrastructures des aéroports du Mali. Et c'est cet aspect qui fait qu'aujourd'hui, on peut penser que c'est une forme... On ne peut même pas penser que la concession long terme est une forme de privatisation d'une infrastructure publique. C'est d'une autorité publique.
D'accord. Docteur Richard Fakabassi, êtes-vous d'accord avec
Sylvie? Du tout. Moi, je pense que je ne suis pas d'accord dans la simple mesure que, comme vous l'avez évoqué dans la question de relance, c'est que la propriété des aéroports du Mali reste sous l'autorité de l'État du Mali. Donc, de ce point de vue-là, on ne peut pas parler de privatisation. Ce sur quoi je peux être d'accord, c'est à la rigueur un partenariat public-privé dans le cadre de la gestion des aéroports du Mali. Et d'ailleurs, c'est même cette tendance qui est aujourd'hui à la mode. Et cela se justifie d'autant plus que la gouvernance des 10 dernières années des aéroports du Mali, le manque à gagner que cela a suscité, et dernièrement, l'investissement dans le cadre du Millennium Challenge qui a retapé les aéroports du Mali et qui ont même fait un pavillon carrément présidentiel au niveau des aéroports du Mali. Tout cela a coûté. Et face à ces investissements, devons-nous continuer à maintenir un système de gestion qui a montré ses limites sur les 10 dernières, voire les 20 dernières années? Je dis non. Donc, économiquement parlant, la privatisation, s'il le préfère, ou en tout cas la cession des aéroports du Mali pour une gestion par un tiers, est très justifié dans le contexte actuel. Parce que, un, ça va permettre, comme je l'ai dit, d'améliorer la gouvernance interne. Parce que quand vous prenez les aéroports, les 10 derniers directeurs des aéroports du Mali, il n'y a pas un seul qui n'a pas un enfant, au moins un enfant, qui travaille au niveau des aéroports du Mali. Et quand tu prends la famille élargie, tu as au minimum une dizaine de personnes de la famille élargie de chaque directeur et prenez les agents qui ont également des postes de responsabilité. Donc finalement, on se retrouve avec une structure étatique qui regorge énormément de personnel dont les compétences ne sont pas suffisamment avérées dans les domaines en question et qui se retrouve être un manque à gagner pour l'État. Aujourd'hui, on nous dit que depuis 3 ans que les aéroports du Mali sont au vert, que les comptes sont positifs, etc. etc. Mais voyons, s'il y avait une autre gestion, est-ce que les comptes allaient être positifs à ce stade, ou pouvions-nous mieux faire? C'est ça la question principale. Et de mon point de vue, en répondant à cette question, je dis que la justification se trouve dans la recherche de ce que M. Traoré a appelé la recherche de l'intérêt supérieur de la nation, à savoir permettre à notre pays d'avoir suffisamment de moyens pour rentabiliser les investissements que nous faisons.
M. Traoré, vous venez d'entendre les réactions de Dr. Étienne Fakaba Sissoko, économiste, et Moussa Sidibé, fiscaliste. Aujourd'hui, est-ce que vous, c'est ce que vous craignez, que l'aéroport ne soit pas privatisé, ne soit privatisé du moins?
Bon, vous savez, c'est ça fait très mal, hein. Ça fait très mal sur l'intervention des deux spécialistes, notamment M. Sidibé et Sissoko. Moi, je vais simplement dire que ça fait très mal.
Qu'est-ce qui fait mal?
La situation sur laquelle nous sommes en train d'échanger, l'aéroport du Mali, le sort de l'aéroport du Mali, privatisé, non privatisé, dans tous les cas, il a été déclaré que la gestion actuelle ne répond pas aux intérêts, en tout cas économiques, de part et d'autre. C'est-à-dire tous les investisseurs craignent le sort parce que ce n'est pas très profitable. Il y a des gâchis quelque part. Bon, moi, je voudrais simplement dire, ma préoccupation, c'est que faire pour que les Maliens deviennent véritablement responsables de l'aéroport du Mali du début jusqu'à la fin. Autrement dit, de la propriété des infrastructures à la gestion économique, financière de la structure. Autrement dit, je ne vois pas. Et ça me met très mal à l'aise. Sinon, j'ai honte de constater que les Maliens sont arrivés à un niveau d'incapacité à gérer leur patrimoine simplement parce qu'ils ne sont pas capables de gouverner les choses telles que les lois de la République exigent. Il y a des lois qui cadrent tout ce que nous faisons en termes de gestion financière, économique, administrative, tout ce que tu imagines. Il y a des lois qui cadrent ces choses-là. Mais la question, comment se fait-il que pendant que ces lois-là sont là, au même moment, il y a ce trou béant qui a été créé au point qu'on est arrivé à dire que le Mali est incapable de gérer sa propriété. Sa propriété à lui, hein, la propriété du Mali.
Donc vous pensez que cette mise en concession est une honte, une incapacité?
C'est de l'humiliation, en tout cas pour le Malien lambda, d'apprendre que la gestion actuelle de l'aéroport du Mali a fait que les Maliens n'ont pas pu gérer et qu'il faut sortir pour donner cela à d'autres personnes. Dans l'usine logique de partager les intérêts, technique, de partager les intérêts économiques, de partager les intérêts financiers, ainsi de suite, quelle que soit la gestion, quelles que soient les appellations. Moi, je pense que le Malien, ce n'est pas pour insulter quelqu'un, mais le Malien digne de ce nom doit se poser la question, mais pourquoi cela? Et quelles que soient les formes qui vont être adoptées, qui vont être maquillées, qui vont être, je ne sais pas.
C'est-à-dire, et pourquoi cela, Dr. Sissoko a évoqué la mauvaise gestion notamment, et on va y revenir tout de suite pour
très
avoir
bien
les raisons.
Voilà.
Mais déjà, pour plus de précision, M. Moussa Sidibé, est-ce qu'aujourd'hui, la mise en concession, quand M. Traoré estime qu'aujourd'hui, ce n'est pas les Maliens, les Maliens doivent avoir honte, mais est-ce que les Maliens eux-mêmes ne peuvent pas gérer cet aéroport-là à travers la mise en concession? Est-ce qu'une société malienne ne peut pas postuler?
Monsieur Touré, il faut déjà que je précise certains éléments.
Allez-y.
Pour Monsieur Traoré, ce n'est pas seulement les Maliens qui sont en incapacité ou l'État malien est en incapacité de gérer des infrastructures aéroportuaires. On estimait déjà en 2016 qu'il y a plus de 500 aéroports dans le monde qui sont partiellement ou totalement privatisés. Ce n'est pas propre au Mali, premier aspect. Second aspect, d'une manière générale, ces genres de privatisation ont commencé dans les pays européens et en Asie. Les parties de la planète qui sont un peu épargnées par cette vague de privatisation énorme depuis les années 2016, mais de plus en plus, ça évolue. C'était l'Afrique, le Moyen-Orient et une partie de l'Amérique du Nord. Le phénomène va crescendo. Pourquoi le phénomène va crescendo? Parce que de plus en plus, il y a des secteurs qui sont censés être stratégiques économiquement, pour lesquels nos États, ce n'est pas propre au Mali, que les États occidentaux qui sont même les plus développés, qui ont plus de moyens, sont en incapacité aujourd'hui de gérer des infrastructures aéroportuaires, ont procédé soit à des privatisations totales et partielles, soit à des mises en concession. Ça, c'est le premier aspect par rapport à M. Traoré. Pour les questions de sémantique, je précise à M. Sissoko que la privatisation des infrastructures publiques prend diverses formes. Ça peut prendre la forme d'une ouverture totale du capital, comme ça peut prendre la forme d'une ouverture partielle du capital, comme ça peut prendre aussi la forme d'une concession long terme. Je renvoie M. Sissoko à des manuels de contrats publics pour dire clairement que la concession est une forme de privatisation. Mais ce n'est pas une privatisation comme lui, il l'entend, comme étant la cession de la propriété de l'aéroport, des aéroports. Moi, je dis des aéroports. En fait, ce n'est pas l'aéroport seulement de Bamako, c'est les aéroports. Ça veut dire que c'est l'aéroport de Bamako et les aéroports régionaux du Mali.
Donc pour que le citoyen lambda puisse mieux comprendre, ce que vous êtes en train d'expliquer, c'est que l'aéroport du Mali va rester la propriété du Mali, mais c'est la gestion qui sera en charge.
L'aéroport du Mali restera la propriété du Mali, sauf que l'exploitation, le développement des infrastructures et l'optimisation économique et financière des aéroports du Mali va être transféré pendant une période relativement longue, entre 30 et 40 ans, à un exploitant privé qui a de l'expertise, il faut le dire, qui a de l'expertise opérationnelle et économique de la gestion d'un aéroport. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que l'État n'ayant pas les moyens suffisants, sur ce point, je suis d'accord avec Etienne, que nos États n'ont pas les moyens énormes pour pouvoir investir dans les infrastructures qui sont des investissements colossaux. Et moi, j'ai été...
Donc êtes-vous d'accord avec Monsieur Traoré qui pense qu'aujourd'hui, ça prouve que l'État est incapable, c'est une incapacité de l'État et que ça devrait être une honte.
Ce n'est pas une honte, ça n'a rien de honte. La seule honte qu'il faut avoir, c'est que lorsqu'on va négocier ces contrats, que les intérêts du Mali ne soient pas préservés dans le cadre de la négociation de ces contrats. Ce n'est pas une once. Tous les aéroports du monde, d'une manière générale, vont vers cette tendance. Donc, ça veut dire que tout le monde est honteux aujourd'hui. Non, ce n'est pas ça le sujet. Le sujet est qu'aujourd'hui, nos États n'ont pas les moyens de financer les infrastructures aéroportuaires à hauteur de souhait. Et tout le monde sait qu'aujourd'hui, la gestion des infrastructures aéroportuaires est dans un domaine très concurrentiel. Les hubs se développent par rapport à la vision économique des États. Si nous n'avons pas les moyens pour développer nos aéroports, il va de soi que nous ne serons pas à hauteur de concurrence avec nos États, avec nos voisins. Et forcément, il y aura un manque à gagner parce que si on ne développe pas l'aéroport, il n'y aura pas de développement de tourisme, il n'y aura pas de développement économique dans nos pays. Et nous, on n'a pas les moyens aujourd'hui de pouvoir gérer, de pouvoir investir dans les infrastructures. C'est pour cela qu'on fait recours à un privé. Maintenant, comment faire pour que ce contrat de concession qui peut être mis en œuvre réponde aux intérêts du Mali? C'est tout l'enjeu.
D'accord. Professeur Soumaré, merci de nous rejoindre. On est en train de parler de la gestion, de la mise en concession de l'aéroport du Mali. Par rapport aux raisons pour lesquelles cet aéroport est en train d'être mis en concession, il y a Dr Etienne Fakaba Sissoko qui a évoqué la mauvaise gestion notamment et le manque de moyens. Au-delà de ces deux aspects, y a-t-il d'autres raisons qui sont en train de pousser l'État malien à mettre en concession l'aéroport?
Non, je pense que le professeur Sissoko a entièrement raison. Je ne sais pas s'il l'a mentionné, mais le rapport du vérificateur 2013 a mis en évidence énormément de lacunes, 9 milliards qui ont été de mauvaise gestion. Et le rapport du 2018 du nouveau vérificateur, qui est revenu encore vérifier l'aéroport du Mali, a mis en évidence des insuffisances d'1,6 milliard. Donc ça, c'est un point très important. Si à deux reprises, deux vérificateurs différents ont trouvé des anomalies, ça ne va pas. Et effectivement, comme il disait également, les investissements colossaux. Hein, il faut investir. Bon, si on investit, soit on investit sur les deniers publics, soit on investit en allant quémander. Parce que quand on a fait le Millennium Challenge, on a été quémander de l'argent. Ensuite, on a été quémandé ensuite pour, en 2015 pour finir les travaux. Maintenant, est-ce qu'il ne vaut pas mieux qu'une société concessionnaire investisse en respectant un certain nombre de charges et un certain nombre d'obligations, plutôt que ce soit toujours le contribuable, directement ou indirectement, qui soit pris en compte. Un autre problème, l'aéroport du Mali, c'est une structure qui a été créée par la loi. Elle a été créée par la loi en 2016. C'est elle qui est chargée de la gestion des aéroports. Et normalement, elle dépend du ministère qui est chargé du transport. Quand on fait une concession, est-ce qu'il ne serait pas important de repasser devant le Parlement pour que tout soit transparent?
Et on pensait que l'Assemblée nationale soit impliquée.
L'Assemblée nationale quand on a modifié l'ordonnance du CMLN de 70 pour créer les aéroports du Mali en 2016, c'est passé devant le Parlement. On a donné la gestion de tous les aéroports du Mali. Maintenant, est-ce que, comme ça s'est fait dans d'autres pays, est-ce qu'il ne faut pas que on passe devant le Parlement pour justement autoriser la concession? Et à ce moment-là, le cahier des charges, tous les documents seront publics. On pourra analyser.
Où était ce Parlement quand cette mauvaise gestion se passait? Vous avez parlé du rapport du vérificateur général. Est-ce que ce Parlement a joué son rôle pour lutter contre cette corruption, cette mauvaise gestion?
Bon, ce n'est pas le débat aujourd'hui. On n'est pas
on parle de l'implication de...
Donc, on va peut-être l'objet de notre émission.
Certains estiment aujourd'hui, je vous donne la parole tout de suite, certains estiment aujourd'hui que par rapport à cette mise en concession, il y a des non-dits aux Maliens. Est-ce que vous avez le même avis, Dr Sissoko?
Je voudrais d'abord dire à M. Sidibé qu'il n'y a pas besoin de consulter un manuel de procédure ou un manuel disponible n'importe où pour savoir que la concession est une forme de privatisation. Mais ce qu'il ne dit pas, c'est qu'au Mali, c'est la première fois en tout cas qu'une entité aussi importante que les aéroports du Mali soit mise en concession. Et les autres formes de privatisation que nous avons vues jusque-là au Mali, c'est des prises d'action, c'est des prises de part dans les entreprises publiques. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, quand on parle de privatisation en parlant de cette concession, il faudra être clair et repréciser qu'il ne s'agit pas de céder la propriété des aéroports du Mali à un tiers. Ensuite, lorsque M. Traoré parle d'une certaine honte qui accompagnerait, je voudrais revenir un peu sur les faits. Parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que cette mise en concession, c'était dans le cadre d'un appel d'offres ouvert. Et dans cet appel d'offres ouvert, il y a 5 entreprises, dont au moins une entreprise nationale, qui ont manifesté leur intérêt pour la gestion. Et lorsqu'on a fait les dossiers d'appel d'offres et mise à la disposition des tiers, il y a au moins 5 qui ont acheté ce dossier d'appel d'offres-là. Et la commission qui a été chargée de regarder tout cela a classé selon les critères qui avaient été retenus. Et sur ces trois-là, il y avait la société canadienne dont on parle de plus en plus, Avalin, et l'autre société française, Aegis. Et donc, ce sont ces deux qui venaient en premier. Mais c'est Avalin qui a été retenu. Et lorsque cette société a été retenue, la société française a attaqué la décision en justice. Et d'abord auprès de l'autorité de régulation des marchés publics et ensuite auprès de la section administrative de la Cour suprême, et qui a statué en faveur de la société française en demandant que cette société-là soit mise dans ses droits. Et ça, on était déjà en 2011. Et donc, pendant cette procédure judiciaire qui a duré presque 3 ans, on s'est retrouvé en 2017. C'est pourquoi les gens pensent que c'est un marché qui vient d'être lancé tout de suite. Non, c'est une procédure qui a été entamée depuis 2011 et qui continue. C'est à cause de la procédure judiciaire, justement, que ça s'est arrêté un moment. Et donc, quand il y a eu ce revirement au niveau de la section administrative, on a instruit à l'État de reprendre le processus et de remettre la société française dans ses droits. Donc, les choses ont tardé jusqu'à maintenant. Et entre-temps, il y a eu les travaux du Millennium Challenge dont le professeur parlait tout à l'heure, et qui font que les offres financières et les offres techniques qui avaient été faites en 2011 ne sont techniquement plus valables aujourd'hui. Maintenant, puisqu'il y a 2 sociétés qui sont en compétition, on leur a demandé de faire de nouvelles offres financières, tenant en compte les améliorations et les investissements qui ont été faits dans les aéroports. Et donc, c'est à la suite de cela qu'aujourd'hui, c'est à ce stade-là qu'on est en réalité. Et lorsqu'on est à ce stade-là, on ne peut pas dire que les Maliens ont été floués ou que les Maliens sont incapables de gérer. Non, ce sont les entreprises maliennes qui n'ont pas été à mesure de produire en tout cas le signe de leur efficacité quant à la gestion d'un tel des aéroports, tout simplement.
Est-ce que les services de l'État ont été incapables de gérer ?
Absolument. Aujourd'hui, quand vous prenez le rapport du vérificateur dont a fait mention le professeur, quand vous prenez les nombreux exemples que je viens de vous donner tout à l'heure sur la gestion quotidienne des aéroports, absolument, aujourd'hui, on n'a pas été capable de gérer de façon sérieuse, comme d'ailleurs toutes les entreprises publiques depuis 1968 à maintenant.
Dans ce cas, par rapport à la privatisation, est-ce qu'il n'y a pas un risque que le Mali perd la propriété ?
J'aime pas le mot privatisation. Au risque de heurter encore Sidibé, ce n'est pas une privatisation. Je préfère qu'on reste dans la concession comme le terme consacré dans ces genres de pratiques. Même si je reconnais que c'est une forme de privatisation. Mais pour ne pas semer la confusion, je préfère qu'on reste dans le cadre de la confusion. Donc, pour dire simplement que non, je ne pense pas que l'État puisse faire autre chose que, d'autant plus que sur le plan macroéconomique, nous avons longtemps dit que nous nous inscrivons dans un système de libéralisme économique. Ça, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les autorités qui ont pris cette orientation. Et à l'époque, on avait dit que le libéralisme économique tel que on nous l'a enseigné, tel qu'on voit à travers le monde, c'est un libéralisme qui n'a pas de visage social. Et que le risque, c'est justement de se retrouver dans une situation comme celle-là, où on va mettre en concession ces aéroports, où on va reprendre l'ensemble des procédures de recrutement, où des familles entières risquent de se retrouver au chômage, parce que celui qui va reprendre les aéroports n'a que pour seul objectif la rentabilité.
Et on va développer tout à l'heure les conséquences. Vous vouliez réagir, M. Traoré.
Moi, je voudrais juste revenir sur les commentaires et les démonstrations de M. Sidibé. Loin de moi est de prétendre faire le faux spécialiste du domaine. Je ne m'y connais pas. Mais je sais qu'il y a bientôt 10 ans, les structures maliennes, économiquement, ne sont pas bien gérées. Et M. Sissoko vient de le dire tout de suite, que les aéroports sont dans cela. Il a même donné des données, au risque de faire la tautologie. Alors, sur la base de cela, quand on me dit que cette pratique est est mondiale, est à l'échelle mondiale, je ne dis pas non, mais ce n'est pas une raison suffisante pour moi d'accepter ce qui est en train de se dessiner parce que ça se fait ailleurs. Non. Qu'est-ce qui m'empêche de me donner les possibilités financières, même si elles sont colossales, je le sais, les possibilités techniques, même si elles sont très difficiles à acquérir, des possibilités politiques, même si c'est très compliqué? Je ne vais pas croiser les bras tout de suite parce que les Canadiens ont abandonné. Moi, je ne vais pas croiser les bras parce que la France a abandonné. soit-elle une puissance mondiale. Ce n'est pas mon problème, ce n'est pas mes propos. Moi, je vais simplement dire que si nous sommes dans cette logique simplement parce que les Maliens ont été incapables, pas seulement financièrement, moralement, je te dis, moralement, c'est important. Parce que il a dit, tous les PDG qui ont passé par là ont leur famille dans la structure. Vous pensez que cela est encourageant? Vous pensez que les Maliens sont au courant de cela? Ils ne sont pas au courant. Alors, toute chose pour dire simplement, moi, je ne suis pas dans les démonstrations techniques très difficiles, hein, selon M. Sissoko, ce n'est pas mes propos. Moi, je vais simplement dire, mettons la barre à terre, revenons sur terre pour dire que ce n'est même pas une leçon compliquée. Depuis que Mourou est parti, j'étais très jeune, hein, sinon j'étais même enfant, mais depuis que Mourou est parti, on nous apprend que les choses et la démocratie est venue, on ne sait pas, à mélanger tout. Ça devient la gestion privée pour moi et pour ma famille. C'est seulement ça mes propos, sinon je ne suis pas en train de dire que quand les choses se justifient techniquement et économiquement et qu'il faut faire appel à d'autres possibilités, je suis d'accord. Pour dire simplement, moi, depuis que j'ai fini mes études, je ne travaille que dans ce domaine. L'aide publique au développement, je sais ce que c'est. C'est des fonds d'autres personnes. Alors, si on fait appel à d'autres compétences pour redresser nos choses, sous réserve qu'on n'a pas été incapable, hein, moralement, je suis d'accord. Moi, je suis d'accord. Autrement dit, son raisonnement, ce n'est pas un raisonnement pour moi qui justifie la logique dans laquelle nous sommes en train de partir pour nos aéroports.
D'accord. Voilà. Moussa Sidibé, aujourd'hui, économiquement, qu'est-ce que l'aéroport représente pour le Mali? L'aéroport international Modibo Keïta qui va être mis en concession.
Avant de répondre à votre question, juste une précision, M. Traoré. Il ne s'agit pas de... Nous ne sommes pas en train de dire que vous aviez tort ou vous aviez raison. On a donné une tendance mondiale, premier aspect. Second aspect, on a donné... Vous pouvez aller regarder les chiffres, les capacités financières d'un État comme un État comme le Mali à pouvoir faire des investissements aussi colossaux pour des aéroports, sachant bien que les priorités économiques et financières du Mali peuvent être ailleurs. Nous n'avons pas assez d'hôpitaux, nous n'avons pas assez d'écoles, nous n'avons pas une armée digne de ce nom. Est-ce que, au regard de ces réalités, il faut mobiliser des ressources financières publiques énormes pour un secteur qui est plutôt économiquement stratégique, mais qui peut être géré par un secteur privé? Premier aspect. Je rejoins M. Koumaré quand il a parlé, effectivement, il a posé la question qu'il faut un cadre réglementaire. Ça fait partie des facteurs de succès d'une concession long terme. En fait, l'État concédant doit construire un cadre réglementaire adapté à son secteur et au choix qu'il a fait par rapport à la concession. Dans le cadre de cet état de fait, effectivement, il faut une adoption d'une loi spécifique sur la réglementation des sociétés aéroportuaires qui est un prérequis dans le cadre de cette concession. Maintenant, quand vous me posez la question, qu'est-ce que l'aéroport du Mali représente aujourd'hui pour le Mali? D'abord, moi, de mon point de vue, l'aéroport du Mali représente économiquement quelque chose. Mais c'est économique, ce n'est pas une souveraineté. La vision de je comprends M. Traoré quand il prend l'exemple sur le régime Modibo. Le monde a évolué du régime Modibo à aujourd'hui. Ce qui était vrai avant sous Modibo...
Mais économiquement, concrètement, qu'est-ce que ça représente pour le Mali?
Ça représente ce qu'on appelle un secteur stratégique économiquement, mais pas un secteur stratégique sur le plan de la souveraineté. Quand on prend l'exemple sur l'énergie, l'exemple sur la santé, l'exemple sur l'éducation, l'exemple sur l'armée, ce sont des secteurs stratégiques dont on ne peut pas faire recours à une concession. Mais la gestion d'un aéroport, l'exploitation d'un aéroport, ce n'est pas un secteur de stratégie souveraine, de souveraineté. C'est un secteur stratégique économiquement, mais ce n'est pas la souveraineté de l'État du Mali qui est en cause. Ça veut dire que ce secteur peut être... La gestion et l'exploitation de ce secteur peut être bien transférer à un privé, mais avec des conditions bien précises. Sachant bien, il faut quand même rappeler que dans le cadre des contrats de concession qui sont établis, l'État a son mot à dire. L'État, au-delà de la redevance annuelle que l'État perçoit, l'État, dans le cadre de cette loi de réglementation spécifique qui est adoptée, peut prévoir des objectifs fixés à la société privée qui va prendre l'exploitation. Si ces objectifs ne sont pas respectés, l'État peut se faire indemniser. Mmh. Au-delà de ça, il y a quand même un partage de risques en termes d'infrastructures aéroportuaires.
Et on va demander au professeur Soumaré quels peuvent être ces risques, quelles peuvent être les conséquences de cette mise en concession de l'aéroport du Mali pour le pays.
Bon, M. Sidibé a commencé, c'est le fait que l'entreprise ne respecte pas le cahier des charges. En général, quand on met une entreprise a une concession, elle doit faire des investissements à ses risques et périls. Et donc, elle doit en plusieurs phases. Et l'un des risques principaux, c'est qu'il y ait non seulement des changements de législation, mais qui vont faire que l'entreprise va renoncer finalement à la concession. On a vu dans beaucoup de pays africains, les entreprises concessionnaires, au bout de 5 ans, il y a un changement de loi, décident d'abandonner. Et donc, ils laissent tout en plan. Donc, on s'est engagé, on a perdu des compétences, et finalement, on se retrouve avec plus rien, comme disait monsieur tout à l'heure. Et on n'a plus aucune compétence à ce moment-là. Et pour revenir un peu sur une notion que les gens oublient, même si l'aéroport est en concession, c'est toujours l'État qui va assurer la police, c'est toujours l'État qui va assurer les services de douane au sein de l'aéroport. Il y a les structures régaliennes sont toujours au sein de l'aéroport. Et pour enlever la notion de honte, tout à l'heure, je voulais en parler, l'aéroport de Riyad, en Arabie Saoudite, est géré par une entreprise allemande. L'Arabie Saoudite a des moyens, mais elle n'a pas peut-être l'expertise opérationnelle pour gérer un aéroport qui va voir passer des centaines et des centaines, des millions de passagers par an.
La question de Traoré, c'était est-ce que c'est parce que ça se fait en Arabie Saoudite ou non, ailleurs ça, que ça doit forcément ça, se faire au Mali?
C'est une question de choix politique. Vous savez, le pays où il y a le moins d'aéroports privés, où les aéroports sont toujours entre les mains du public, vous connaissez ce pays, c'est les États-Unis. Il y a des aéroports privés, mais les grands aéroports aux États-Unis sont publics. Les Américains ne sont pas allés dans le sens de la privatisation de leur aéroport. Londres est privé à 100% et appartient à une société espagnole. Donc, il y a plusieurs possibilités. 100% public, mixte et 100% privé. Donc, maintenant, c'est des choix. C'est des choix politiques. C'est des choix qui doivent être acceptés par la population. Et c'est pour ça que je disais, il faudrait que ça passe au niveau de l'Assemblée nationale pour qu'on sache ce que l'on veut. Mais il faut bien savoir que si c'est une concession, au final, c'est toujours l'État qui va récupérer, à la fin de la concession, qui va récupérer à la fois les bâtiments et le terrain. On ne va pas céder le terrain. Les gens ont peur de ça, je pense. Parce qu'il y a eu tellement d'histoires de trafic de terre. Ils se disent, il y a 7000 hectares au niveau de la zone aéroportuaire. Qu'est-ce qu'on va en faire si on privatise ? Est-ce que dans quelques temps, on ne va pas morceler, on va commencer à vendre les... C'est ce dont les gens ont peur, je pense.
D'accord. Risques et conséquences, à quoi peut-on s'attendre par rapport à cette mise en concession ?
Oui, la première conséquence, de mon point de vue, c'est d'abord sociale. Comme Sidibé l'a évoqué dans ses propos préliminaires, il y aura une restructuration au niveau des aéroports, ce qui va occasionner des pertes d'emplois, bien entendu. Et même si on peut estimer qu'il y aura une politique d'accompagnement de ces personnes qui vont perdre leur emploi ou de recyclage de ces personnes-là pour les réorienter vers d'autres secteurs et autres. Il y a également l'autre conséquence, c'est que même s'il est vrai que les secteurs de souveraineté comme la police dans l'aéroport, comme la douane, va rester sous le contrôle de l'État, l'aéroport, c'est quand même la première porte, l'une des premières portes d'entrée du pays. Et l'État va lever le pied un tout petit peu sur cela, parce que d'autres aspects de la gestion des aéroports vont lui échapper.
Pensez-vous que c'est un domaine de souveraineté ?
Absolument. C'est qui rentre, qui sort. L'État doit pouvoir contrôler cela. Et la présence de la police et de la douane matérialise cela. Mais puisque ce n'est pas une gestion exclusive de l'État. C'est là où il peut y avoir, bien entendu, des risques si vous n'avez pas en face de vous de gens sérieux. Mais encore une fois de plus, ce qui va pouvoir nous permettre d'échapper à tout cela, c'est dans le cadre de la plupart des concessions, c'est une fois que les détails techniques auront été ficelés, de passer devant l'Assemblée nationale pour s'assurer effectivement, comme l'a évoqué le professeur Soumaré, que ces aspects-là, qui ne touchent pas à notre souveraineté nationale, qui ne touchent pas à notre intégrité en tant qu'État, puissent être effectivement sauvegardés. Encore une fois, au-delà de tout ça, d'un point de vue purement économique, la concession est une excellente chose aujourd'hui pour notre pays, parce que ça nous permettra de sortir enfin de ce système de mauvaise gouvernance que nous avons connu.
Quelles sont vos attentes aujourd'hui, M. Traoré? Quelles sont vos attentes aujourd'hui par rapport à cette mise en concession? Vous avez évoqué au début que votre inquiétude, c'est que l'intérêt public ne soit pas touché.
Oui, c'est la... on dit, à quelque chose, malheur est bon. Si la solution, en tout cas, doit forcément passer par là, il faut le faire. On l'accepte, on endosse ce fardeau d'humiliation, c'est ça. Parce qu'il faut, le dire. Il faut le dire. C'est-à-dire, l'aspect opérationnel, c'est très bien. Mais le fait de dire que les Maliens ont été incapables, c'est pourquoi ça s'est arrivé. C'est là la question. Sinon, si dans la faisabilité des choses, les gens sont en train de les démontrer, ne sont pas des choses, excusez-moi, on n'est pas idiots. C'est-à-dire, chaque fois que les intérêts sont là, on est d'accord. Mais c'est venu parce que et les gens pensent que c'est pour eux, les gens font ce qu'ils veulent, les gens, sans contrôle. Vous voyez, c'est ce qui fait très mal. Donc, en termes d'attente, on souhaiterait que ce processus aboutisse à des conclusions bénéfiques pour le Mali, et que ça soit géré, en tout cas, dans une logique strictement pour les intérêts du Mali. C'est important. Si ça peut amener cela, on fait la concession, on fait le compromis. Sans la compromission, on est d'accord en attendant.
Ok. Moussa Sidibé, est-ce que cette mise en concession pourra être bénéfique pour le Mali? Est-ce que les Maliens pourront profiter pour avoir une bonne expérience dans la gestion, notamment des aéroports?
Cela dépendra forcément du concédant, en l'occurrence le gouvernement du Mali. Et on l'a dit tout à l'heure, il faut que le gouvernement réfléchisse à un cadre réglementaire adapté. Et dans le cadre de ce cadre, dans cette réglementation, le gouvernement doit mettre en place, j'imagine qu'ils ont recours à des cabinets spécialisés en la matière pour donner le maximum de d'informations, le maximum de données entre de l'État du Mali pour défendre ses intérêts. Et on l'a dit clairement aussi que les fonctions de souveraineté sont sauvegardées même dans le cadre d'une concession. Ce n'est pas de soi, en fait. C'est dans une concession, tous les aéroports qui ont été concédés, qui ont fait l'objet d'un contrat de concession, la police, la douane, tout est géré par l'État. C'est juste la gestion et l'exploitation qui est... L'autre intérêt qu'on peut avoir, c'est de d'espérer, si les cahiers de charges sont respectés qu'on ait une amélioration fulgurante.
D'accord, merci. Le temps nous fait défaut. On va donner la parole à professeur Soumaré. Est-ce qu'on sait aujourd'hui sur quelle durée cette mise en concession se fera?
Pour le moment, on n'a aucune information. Par contre, je voudrais mentionner un point. Il faudra faire attention à ce que la concession ne concerne pas uniquement l'aéroport de Bamako, mais concerne également les autres aéroports régionaux. Parce que maintenant, il y a une compagnie qui utilise Air Burkina pour aller à Kaï. Il faudrait que si on donne la concession et qu'il y a des investissements à faire, ce ne soit pas uniquement Bamako qui soit concerné. Il faudra également penser, l'aéroport va maintenant être entouré par la ville. qu'est-ce qui va se passer quand il va falloir mettre un aéroport à 50 km comme ce qu'ont fait les Sénégalais.
D'accord, et on aura d'autres occasions pour en parler. Merci professeur Mamoutou Soumaré du Centre de réflexion et d'action contre la corruption, Moussa Sidibé, fiscaliste conseil, docteur Étienne Fakaba Sissoko, économiste chercheur au CRAPES, et Mamadou Traoré du Forum des organisations de la société civile. À la régie vidéo et audio, il y avait Peting Diara et Nouhoum Djiré. Je suis Mouhamadou Touré. Ce soir à 21h30 sur Énergie TV et à 23h sur Renouveau, vous suivez Le Grand Dialogue de Studio Tamani. Merci à tous.
Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani wa Makara.
Le Grand Dialogue, l'émission des débats du Studio Tamani sur votre radio.
Chenne Berry.
Halou Dmoni.
Chenne Berry.
Sigi Kafoba.